RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant sur RMC, la radio et RMC Story, la télé, pour le rendez-vous des GG, des grandes gueules, en toute liberté, en toute franchise. On discute ensemble ce qui fait notre pays jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Dans les GG aujourd'hui, Stéphane Manigold, restaurateur, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Je pense que je suis le seul à avoir un col roulé, je suis vexé.
Quant à Monsieur Yevig,
alors toi je vais te faire fabriquer un t-shirt col roulé, tu vois.
Ah, ce serait pas idiot, conceptuel.
Je trouve que ça tirait bien, un t-shirt col roulé.
Etienne Yevig, éducateur, est avec nous. Bonjour mon cher Etienne.
Bonjour.
C'est vrai que depuis 15 ans, 10 ans que tu es avec les GG maintenant.
Juste, 13.
13 ans.
Je crois qu'on a ça fait moins, hein.
Toujours vu Étienne en t-shirt noir.
Une fois en Père Noël.
Oui, c'est ça, en 4
ans. Et une fois avec un col roulé, c'était la semaine dernière.
Zora Bitant, cadre de la fonction publique, est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Zora.
Bonjour à tous.
De quoi va-t-il être question aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Est-ce qu'on est devenu une société de pantouflards, en fait, qui ne veut qu'une seule chose, son confort? Rester à la maison, c'est le livre de Pascal Bruckner, livre le philosophe. Il sera avec nous tout à l'heure, à 10h. Si vous êtes d'accord avec son analyse, vous pouvez venir en parler au 32-16. Premier sujet de discussion, on va continuer de parler de l'énergie. Alors, on a parlé de l'énergie pour nous, les particuliers. On se souvient du coup de gueule de notre camarade Johnny Blanc, fromager dans les Deux-Sèvres, la semaine dernière, qui nous a expliqué que sa facture avait pris 400%. Là, on va écouter les maires. Les maires, pour qui certains, c'est x16 pour le gaz, x32 pour l'électricité. Et le maire de Denis-sur-Marne, il en a ras-le-bol. Il est aux limites, révolte pour le maire de Denis-sur-Marne. Est-ce qu'ils ont raison, les maires, de gueuler? Est-ce qu'ils doivent arrêter de payer? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
Au 31 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, nos contrats d'énergie, électricité et gaz prennent fin. Depuis des mois, on recherche de nouvelles offres à souscrire. Alors on a passé un appel d'offres, sauf qu'aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. On est donc aujourd'hui obligé d'acheter au prix du marché. On passerait de 2 millions d'euros de facture d'énergie à 10, 12 ou 15 millions d'euros au global. C'est totalement inacceptable, mais malheureusement le gouvernement laisse faire. Et qu'est-ce qui se passerait si on refusait de signer ces offres totalement délirantes? Hier, on a reçu un mail d'Enedis qui nous expliquait qu'au 1er novembre, si on ne signait pas ces offres délirantes, on nous couperait l'électricité et le gaz pour notre ville de près de 40 000 habitants. C'est du racket organisé.
Racket organisé dénoncé par le maire.
Il faut expliquer de qui il
Monsieur
s'agit.
Bakhtiari.
Il s'appelle Zatorcht Bakhtiari, il est maire de Neuilly-sur-Marne en région parisienne. Et cette courte vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux est venue très rapidement virale parce qu'il dénonce, comme il l'a dit, un racket organisé avec la passivité de l'État français. Il a donné des exemples. On impose aux villes de passer de 15 euros le mégawatt à 240 euros et de 65 euros le mégawatt électricité à 2068 euros. Il dit, on ne tiendra pas, on ne pourra pas tenir. Et il y a une indifférence du gouvernement, selon lui. Le gouvernement, c'est surtout concentré sur les particuliers avec un bouclier tarifaire et les Français ont été protégés jusqu'à présent de cette inflation, même si les tarifs ont augmenté en janvier. Mais là, c'est plus possible pour les villes. Alors, on avait parlé des piscines fermées, des bibliothèques qu'il va falloir éteindre, des écoles qu'il va falloir moins chauffer. Le maire, il dit, il faut pas payer, en fait. Si, finalement, tous les maires refusent de payer, Enedis sera bien obligé, à un moment donné, de faire quelque chose, et l'État également. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que cet appel, en quelque sorte, à la désobéissance civil, vous le partagez?
32-16 pour en parler avec les grandes gueules, avec les GG. Étienne, tu es d'accord?
Il a raison si tout le monde suit. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que...
Suivez-moi,
hein. Si le gars est tout seul à pas payer, je plains mes collègues de Neuilly-sur-Marne. Il a raison si ce mouvement est partagé par un très grand nombre de maires. Et si, alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le constat et ensuite il y a la façon dont on peut lutter contre ce constat. Il a d'abord tout à fait raison, comme l'ont fait un certain nombre de chefs d'entreprise, de mettre le point sur la table de façon à ce qu'on soit tous concernés par cette affaire et qu'on se rende tous compte qu'on arrive dans, c'est une impasse et qu'il faut que le gouvernement fasse un geste comme il l'a fait
pour les particuliers.
Pour les particuliers. Il faut qu'ils le fassent pour le ville.
Surtout que les mairies dénoncent en même temps la baisse des dotations.
Bah, c'est ça. D'autant plus que les villes vont avoir de moins en moins de fric. Enfin, pas tant la dotation d'État, mais les impôts locaux. Et donc, ils vont avoir de moins en moins de fric. Donc, comment ils vont payer ça?
Ils augmentent tous cette taxe foncière. Hein, donc,
Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a dans chaque ville, et ça c'est absolument évident, des économies à faire. Et je pense que c'est le moment, effectivement, de réaliser ces économies. On l'a toujours repoussé en sachant que ça allait arriver. On a parlé l'autre jour des locaux communaux qui étaient absolument peu isolés, voire mal isolés, voire pas isolés du tout. Je connais des vieux gymnases qui c'est un véritable scandale, etc. Donc de toute façon, on rentre dans cette période où ça va nous forcer, comme déjà ça nous était arrivé en 73 et les années après, ça nous force à changer nos modes de consommation. Donc ça va changer les modes de consommation.
Sauf que là, il y a une urgence en fait.
Il y a une urgence.
Les contrats arrivent à terme et les nouveaux contrats qui sont proposés, c'est x16.
Sur le mode d'action, moi je pense qu'il a totalement raison sur le mode d'action.
Stéphane Manigold, restaurateur.
Là, ce que dit Étienne, il parle des collectivités. Moi, j'aimerais parler des entreprises. Aujourd'hui, il y a un bouclier énergétique. Ouais, mais c'est le même sujet parce que le particulier, pour payer sa facture, faut qu'il puisse travailler. S'il peut pas travailler parce que l'entreprise ferme, parce qu'il n'est pas l'entreprise n'est pas en capacité de payer sa facture énergétique, il y a plus de salariés. C'est 60%. C'est le chômage partiel, hein. Si une entreprise met un salarié au chômage partiel, il touche 60% de son revenu. Donc c'est 40% de baisse de pouvoir d'achat, il ne travaille pas et il a une facture énergétique qui monte. Donc on est tous concernés, citoyens, les particuliers, les entreprises. Il y a eu un bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement, moins de 10 salariés, jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. La vraie vie, ce n'est pas ça. Quand on est des artisans de la main, on utilise l'intelligence de la main, le ratio c'est 1 salarié pour 100 000. Donc le plafond de chiffre d'affaires à 2 millions, c'est très bien, mais il faut qu'il monte en termes de masse salariale. Il faut passer à 20 salariés. Ça ulcère tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent là. Ce ratio, il n'est pas cohérent. Et du reste, après-midi, j'ai rendez-vous...
Mais est-ce qu'il faut mettre ce bouclier pour les villes? Parce que là, tu nous parles des entreprises, c'est une chose.
Mais il faut le mettre pour tout le monde. Alors, je vais te répondre.
Oui, mais c'est un coût. Enfin, moi, je veux bien,
L'Allemagne, la rigueur, la discipline, c'est l'Allemagne.
Oui,
moi, je connais,
moins,
je suis alsacien.
Ouais,
200 milliards. Attends, l'Allemagne a annoncé 200 milliards.
Oui, c'est vrai.
De protection, de bouclier énergétique pour les particuliers et pour les entreprises. Moi, je dis, bravo les
Allemands. Ils ont le double d'inflation.
Bravo les Allemands. Mais attends, un moment, c'est arrêter de regarder des chiffres. La vraie vie, c'est à quel moment les citoyens sont heureux. Et quand tu as une inflation si forte de l'énergie où ton coût de production, il fait x10, x20, ça ne marche pas. Est-ce que je peux me permettre juste, puisque cet après-midi, j'ai rendez-vous avec la ministre Olivia Grégoire justement sur ces sujets. Nous avons créé un module pour que les entreprises puissent savoir si elles sont protégées ou pas. Il suffit qu'ils se connectent sur umih2022.fr.
Oui,
il y a un module pour de protection.
Le sujet, c'est les villes. Est-ce que le maire a raison de dire « je ne vais pas payer » ou est-ce qu'il faut trouver des solutions, d'autres solutions? Est-ce que c'est l'État qui doit payer les factures des villes? Ça paraît comme un peu bizarre quand même.
Mais la question de la dépense publique, elle intègre aussi les collectivités territoriales. Les gens, quand on parle de dette, ils pensent souvent à l'État. Oui. Quand ils pensent de dépenses publiques, ils pensent qu'à l'État. En fait, la collectivité territoriale, elle est directement concernée par la dépense publique. Donc là, forcément, la question de la dépense énergétique, elle va revenir en boomerang. Sur quoi? Sur le citoyen, sur les administrés. Forcément, si l'État réagit pas et si l'État ne donne pas les moyens aux collectivités territoriales de faire face à toutes ces dépenses, forcément, il y aura des répercussions. Il y en a déjà sur la suppression de la taxe d'habitation via la taxe foncière, etc., etc. On sait très bien que, de toute façon, à la fin, c'est quelqu'un qui paiera. Donc, je pense qu'il a raison d'alerter sur un fait pour lequel il est au pied du mur et que la facture énergétique, va bien falloir que quelqu'un la paye. Donc, il va falloir que l'État décide et dise, à l'instar des entreprises, mais aussi des collectivités, on se met autour de la table, à quel moment on paye, à quel moment on intervient et qui paye l'addition à la fin. Donc, je ne sais pas si sa méthode va faire mouche, ou en tout cas va permettre...
Il lance un collectif, hein.
Oui, d'accord, mais
le maire.
Non, mais il fait un constat. La facture va arriver.
La solution qui est intéressante.
Et voilà, est-ce qu'il se met autour de la table avec l'État en disant je tire la sonnette d'alarme, je ne suis pas le seul concerné, je ne suis pas la seule collectivité, on se met tous autour de la table et on trouve une solution de manière à ce qu'on règle ça rapidement. Oui, mais ça m'a pas l'air suffisant pour eux.
Alors, non, tu as entendu les chiffres, les coûts fois 7.
Mais oui,
non seulement j'ai entendu,
tu peux plus faire face.
Lui dit ça va être la faillite de toutes les communes. Alors là,
non, pardon, mais il exagère, là, il est dans la politique politicienne.
Je pense que toutes les villes ne se valent pas. Je veux dire, elles n'ont pas toutes
en
les
plus,
mêmes objets. Je pense qu'il y a des villes. Peut-être
plus.
Une ville comme Neuilly-sur-Marne, c'est plus compliqué.
Il y a des disparités.
Mais dans les grandes villes comme Paris, des économies, on en trouve, je veux dire, à tous
les coins. Mais bien sûr, bien sûr.
On peut réduire déjà le train de vie de ces villes.
Mais bien sûr.
On peut moins dépenser de l'argent qui sent parfois un peu de l'argent, un peu de la gabegie. C'est vrai pour des communes, déjà qui ont des difficultés parce que c'est des communes avec des populations plus pauvres, etc. Des communes qui ont moins de recettes, moins d'entreprises. Je pense que là, il faut faire un effort. Mais
bien sûr.
Une fois de plus, il ne faut pas que l'État, parce que le problème de l'État, c'est qu'il donne de l'argent à tout le monde. Là,
mais on se trompe de
sujet. Alors, la ristourne de carburant, c'est pour tout le monde. Celui qui a les moyens ou pas les moyens. Et ça, c'est de l'argent perdu. Il faut cibler, il faut aider les communes qui sont en grande difficulté et demander aux grandes communes, je pense à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, de faire des économies. On n'est pas obligé d'avoir 450 communicants, on n'est pas obligé d'avoir.
C'est vrai.
On n'est pas obligé de distribuer de l'argent.
La dépense publique, on oublie tout le temps les collectivités territoriales.
C'est vrai que
des. Mais on leur demande jamais de faire des économies.
C'est vrai.
Non, mais il y a des grosses entreprises, je pense à des villes comme Puteaux, etc. C'est sûr qu'ils ont du fric.
Voilà.
Autant qu'ils veulent, ils ont pas
besoin. Donc il faut que l'aide soit ciblée.
Non, mais bien sûr, sauf que ce qu'il raconte, ce maire.
L'État ne fait pas, l'État donne à tout le monde.
C'est qu'il dit lui-même, là, je suis face à une échéance, c'est-à-dire je renouvelle mon contrat, on me demande de payer. Je ne peux pas. Et on me dit, on va vous couper le gaz et l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il dit non. Là, si tu vois, je voyais, il y a une copropriété du côté de Valrose à Nice, il y a un article dans Nice ce matin, où le renouvellement des contrats, c'est x8 au moment où on présente la note. Donc là aussi, le type dit, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu fais face à ça on ne peut pas.
Alors déjà, la force publique, c'est aussi de connaître les dispositifs qui existent. Et aujourd'hui, il y a, alors c'est un peu chiant, hein, il y a un dispositif qui s'appelle la règle des minimis en Europe qui permet aux États membres d'intervenir. Est-ce que les États peuvent intervenir? La réponse est oui. L'Allemagne l'a démontré, 200 milliards pour protéger les particuliers, les entreprises grâce à ce bouclier énergétique.
Donc c'est faut un bouclier pour toutes les villes.
Mais il faut un bouclier. Mais on parle de l'État.
Donc
attends, on parle de l'État.
Distinction.
Ça me rappelle le sujet des fermetures administratives des restaurants où on a dit c'est l'État qui doit payer. Moi j'ai dit d'abord non, il y a des assureurs. Ben là c'est le même sujet. Le comportement de Engie, Total Energy, Enedis, EDF ne doit pas être celui des assureurs d'hier. Ouais, ils ne peuvent pas se défausser, pardon.
EDF, ils ont des comportements, on leur fait perdre de l'argent avec le bouclier.
Oui, mais comme dans tous les pays d'Europe, l'Allemagne par exemple et l'Espagne pardon, est sortie de la corrélation entre le prix du gaz et l'électricité.
Ça,
mais c'est pas une chose parce qu'en fait, il y a bien un moment quelqu'un qui gagne de l'argent. En France, on produit de l'électricité.
C'est un très bon sujet.
Si en France on produit de l'électricité, je vois pas comment le coût de l'électricité a augmenté sachant que la production
de l'électricité. Bah, on n'en a pas suffisamment pour nous.
Non, mais on n'en a pas suffisamment.
On va en prendre d'Allemagne d'ailleurs.
Mais on a 70% de la production, c'est de l'électricité qu'on produit nous-mêmes. Donc à un moment, il va falloir qu'on m'explique que quand quelque chose monte, sans que les coûts augmentent, il y a un sujet qui ne me convient pas.
Ce qui est important, c'est que justement, moi je dis qu'en ce moment, on vit une période un peu spéciale, je le dis ici toujours, et je pense qu'on vit vraiment ça, par exemple ce que tu viens de dire là, effectivement, il faut réfléchir au fait de l'autonomie pour chaque pays et que chaque pays puisse se permettre. Pas d'être autonome à 100%, mais de pouvoir échanger avec d'autres les modes d'énergie dont nous avons plus. Vendre de l'électricité et récolter du gaz, c'est pas quelque chose.
Sauf que c'est l'inverse qu'on fait.
C'est l'inverse qu'on fait très bizarrement. Alors qu'on est le premier pays, européen sur le nucléaire. On est bien en avance sur les autres sur le nucléaire.
Oui, mais sauf qu'on a notre parc nucléaire, on a
pas su. Il est en réparation, mais là, ça va repartir.
Non, on a voté une loi comme quoi il fallait enfermer 12 réacteurs.
On va aller du côté des Hauts-de-Seine. Premier intervenant au 32-16, on va aller du côté des Hauts-de-Seine. Retrouver un chef d'entreprise, c'est Toumba qui est avec nous. Bonjour Toumba.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Est-ce qu'il a raison, le maire de Neuilly-sur-Marne, mon cher ami?
Oui, il a raison. La raison pour moi, pour la première chose, simplement, c'est que c'est pas le seul maire à se plaindre, pardon. Et si les maires arrivent à se plaindre, qu'est-ce que les particuliers, eux, peuvent dire?
Les particuliers, ils ont un bouclier pour l'instant. Ils n'ont pas les factures qui augmentent par 16.
Excusez-moi, pour l'instant, il y a un bouclier, etc. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur.
Je
peux vous le dire, j'ai comparé mes quittances de loyer de l'année dernière. De cette année, je suis passé de 51 euros en facture de chauffage à 121 euros, sachant que le chauffage n'a pas été mis. Déjà, il faut savoir. Et deuxième chose, les bâtiments de l'État, ce sont des passoires énergétiques.
C'est vrai.
Il n'y a pas plus passoire énergétique que les bâtiments de l'État.
Alors,
est-ce que pour moi, j'ai une seule question à vous poser. Pour moi, est-ce que il faudrait déjà commencer par réaménager, rénover tous les bâtiments de l'État, ou est-ce que simplement il faut mettre les moyens nécessaires pour que nos centrales puissent refonctionner assez rapidement et puis qu'on puisse ne pas se retrouver dans dans tel cas où les mairies ne peuvent pas payer. Parce que si un maire il vous dit clairement je suis pas capable de payer, alors les ces administrés, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Lui-même, le maire, n'est pas capable de payer, malgré qu'il y ait le bouclier. Parce qu'aujourd'hui, on en parle, etc. Il y a le bouclier, d'accord, on ne voit pas les couleurs. Pour l'instant, je suis pas le seul.
Ce que dit Touba est vraiment intéressant.
Et on a des centrales qui sont à l'arrêt, qui ne fonctionnent pas. Ouais, maintenant, Touba, mettez les moyens nécessaires, quitte à travailler du samedi au dimanche, faire du 3-8 ou quoi que ce soit, pour qu'on puisse refaire fonctionner et qu'on puisse vivre, tout simplement.
Ce que dit Touba est très intéressant. C'est le manque de communication de la part de l'État et depuis des décennies. Depuis des décennies, en fait, on dépense de l'argent public sans que les citoyens s'en rendent compte. Eh bien, moi, je pense qu'à un moment, quand tu reçois une facture énergétique et que tu as un bouclier, tu dois marquer « voilà le prix que vous devriez payer ». Grâce au bouclier énergétique, voilà le prix que vous allez payer. Ça, on devrait le faire partout. Quand tu vas dans une pharmacie et que tu prends des médicaments parce que tu as une ordonnance, eh bien, on devrait te mettre le vrai coût. Et grâce à la solidarité nationale, voilà ce que ça te coûte seulement. Il faut qu'à un moment, on sorte de cette notion de gratuité à tout prix qui est inscrite durablement dans la tête des Français. Il faut que les Français aient le vrai coût de ce que à chaque fois coûte une mesure lorsqu'elle est mise en place. Et ça, c'est vraiment le cancer de ce pays. C'est un cancer.
Merci Touba d'avoir été dans les GG. On va continuer la discussion dans un instant du côté de la Marne avec Sandra, les gestionnaires de patrimoine. Selon elle, les maires doivent se lancer dans une espèce de mouvement là. Arrêter de payer. Vous avez entendu le coup de gueule du maire de Neuilly-sur-Marne. Les prix proposés par les opérateurs pour renouveler les contrats d'approvisionnement, ça ne passe pas. x16 pour le gaz, x32 pour l'électricité. Il dit la note est impossible à payer pour ma mairie. Donc, est-ce qu'il a raison? Il y a une espèce de mouvement qui se lève pour dire non, on ne paye pas. 32-16 pour continuer d'en parler avec les GG.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Stéphane Manigold, restaurateur, Zorabitant, cadre de la fonction publique et l'éducateur Étienne Liebig. On s'intéresse à ce coup de gueule du maire de Neuilly-sur-Marne qui en a assez du renouvellement, enfin plutôt de la hausse du renouvellement des contrats énergétiques. x16 pour le gaz, x32 pour l'électricité. Ça ne passe pas, lui. Il parle de raquette énergétique. Il dit si ça continue, je ne vais pas payer, c'est pas possible. Sandra, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'en dites-vous, Sandra, alors?
Alors, moi, je suis un petit peu d'accord avec le maire sur le fait qu'effectivement, ils doivent commencer à mettre une action en place et pourquoi pas arrêter de payer si ça va jusque-là. Maintenant, je vous écoutais tout à l'heure où vous disiez que l'État devait faire quelque chose. Moi, j'en ai un petit peu marre de me dire l'État doit payer. Parce qu'en fait, l'État paye, oui.
C'est nous.
Mais c'est nous.
Mais oui, et c'est ça. Donc, que les gens comprennent
c'est
pas.
C'est bien beau, voilà, exactement. C'est bien beau d'augmenter la dette. Et puis, mais j'en ai un peu marre de cet argent magique qui tombe du ciel où, en fait... Finalement, c'est les ménages qui vont payer, c'est ma génération, c'est la génération de mes futurs enfants et puis de leurs enfants. Et j'en ai un petit peu marre de cet argent qui tombe du ciel. Faut pas oublier que l'argent qui vient de l'État, en fait, c'est nous qui allons le payer à un moment donné.
Mais en plus, c'est un peu, moi, je trouve ça un peu tendancieux d'appeler à la désobéissance civile. Et c'est un élu qui le fait parce que dans ce cas-là, le citoyen peut dire, moi, j'arrête de payer ma taxe foncière qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mmh. Et donc là, le maire va se retrouver emmerdé. Moi, j'en ai marre de payer des PV aussi à répétition parce que j'ai plus les moyens de payer des stationnements payants. Enfin, faut faire très attention. Ça, c'est le mouvement du Royaume-Uni Don't Pay, qui a été lancé. On ne paiera pas, etc. Aussi, ouais. Moi, je trouve ça dangereux parce que dans ce cas-là, chacun peut revendiquer de ne pas plus pouvoir payer.
Sandra,
doit payer.
Allez-y, Sandra.
Oui, non, mais je comprends tout à fait ce système de dire oui, mais dans ce cas-là, on paye plus notre amende, on paye plus. Enfin, dès qu'on est mécontent, finalement, on paye plus. Mais donc, dans ce cas-là, on va jusqu'où, en fait? C'est-à-dire que nous, on accepte jusqu'où
on nous demande de payer nos impôts, par exemple.
Il manque quelque chose, Sandra. Il manque quelque chose, justement, dans la question de la dépense publique. La question de la dépense publique, c'est que les collectivités se plaignent de l'augmentation de l'énergie, les particuliers aussi, etc. Mais le président de la République vient de lancer le Conseil national de la refondation. Il parle de politique publique menée en concertation avec les citoyens, que tout le monde aura son mot à dire, etc. Et lorsqu'on a un budget personnel, lorsque la dépense est importante, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des économies.
Bah oui,
c'est la première chose qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va voir son banquier, vous gagnez 3000 euros, vous en dépensez 5000, il commence à vous dire que vous allez échanger de votre train de vie. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'État nous dise, lui, à l'échelle de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, qui nous mettent sur la table toutes les économies qui vont être faites, et en face, toutes les dépenses obligatoires, incompressibles, auxquelles on va être confrontés à la fois nous les citoyens et à la fois l'État, quitte à engager de la dette, mais qu'on sache un petit peu aussi comment chacun sa part, comment chacun va avoir sa part dans cette question. Or, on n'entend pas du tout la question de l'économie, du train de vie de l'État et des dépenses de l'État.
C'est bien beau de demander des efforts, en fait.
Ben oui, mais pourtant, c'est important.
Ah oui, mais tout le monde a été entretenu.
En fait, on demande des efforts, en fait, effectivement, aux particuliers, on baisse à 19 degrés, etc., etc. Et à côté de ça, les entreprises, effectivement, comme EDF, vont distribuer des dividendes qui n'ont pas été aussi élevés depuis 2017, par exemple. Honnêtement,
EDF, c'est pas une entreprise qui va très bien. Hein.
Mais oui, en plus.
Quand on voit des entreprises comme Total, c'était pareil avec le carburant, etc. Ouais. Enfin, c'est un tout, mais en fait, je trouve que.
Oui, mais vous voyez, pardon, mais c'est très français, c'est-à-dire que les élus locaux ne cessent de nous dire j'en ai marre de dépendre de l'État, je veux être indépendant.
Voilà, la décentralisation continue.
Laissez-nous tranquilles, on sait mieux faire.
Oui,
c'est ce qu'on entend.
Bien sûr.
Les gens disent ouais, nous, on sait mieux faire.
Bien sûr.
Et puis quand il y a un problème, ça, l'État, aidez-nous, etc. Moi, je trouve que ce
discours. Mais bien sûr.
Mais c'est un discours assez français.
En plus, c'est très politicien.
On veut qu'on nous foute la paix, et dès qu'on a un problème, on se tourne vers l'État. Il faut à tout prix que l'État nous sauve.
Non, mais.
Parce qu'on a pris. Je pense que le Covid, il y a pour beaucoup. Je pense que le fait qu'on ait pris cette espèce d'habitude de se tourner, parce qu'on nous l'a demandé, personne n'est vraiment responsable, mais finalement, les gens, pour beaucoup, sont restés sans rien faire, ont été payés. D'ailleurs, ça a changé la façon d'envisager son avenir. Les entreprises ont continué de vivre alors qu'elles ne bossaient plus, etc., etc. Il y a eu quelque
chose. On voit bien que l'État est là.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui était d'abord très français pour le coup, puisque il y a aucun pays qui a été aussi loin que nous là-dedans. Alors, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le mauvais choix? A priori, les économistes disent plutôt que ça a été un bon choix.
Alors, je remercie Sandra d'avoir été avec nous. Bonne journée, Sandra. À bientôt dans les GG. Au revoir, Sandra. Stéphane.
Du coup, dans ce que tu dis, Étienne, l'État protégé, etc., ça veut dire que tu veux réécrire le préambule de la Constitution.
Non,
l'article 12 du préambule de la Constitution est très clair que face à une pandémie, face à une catastrophe, face à une calamité, l'État en dernier ressort est là. Et c'est bien la Constitution. Donc soit tu réécris la Constitution, tu dis quand il se passe quelque chose, chacun pour soi et Dieu pour moi, soit tu considères que la Constitution, et c'est mon cas, je considère que la Constitution elle est quand même plutôt bien écrite. Post-guerre, c'est une bonne chose, elle est là pour protéger. Et quand tu prends une fermeture administrative décidée par l'État, on te prive de ta liberté de travailler, donc de rentrer du chiffre d'affaires et de faire face à tes dettes, qui doit assumer? C'est l'État. Enfin, j'ai un moment, il faut être lucide. Moi, et bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine aujourd'hui dans ce conflit, et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs dans cette situation. Évidemment qu'il y a un pays qui est occupé.
Non,
mais c'est un choix européen.
Seulement. Je trouve alors l'Ukraine à bon dos.
Non, mais sur le gaz, l'approvisionnement de gaz en Allemagne,
l'inflation,
c'est flagrant.
L'inflation, c'est des choix politique et monétaire, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent d'argent liquide dans l'économie, ça a fait monter les prix, et c'est pas seulement la France, les États-Unis avec des plans de relance,
plus petite inflation.
Il y a quand même, on est en train de payer aussi des choix stratégiques, économiques, monétaires. Alors moi j'en ai marre qu'on nous culpabilise ensuite en nous expliquant, mais maintenant c'est vous qui devez vous serrer la ceinture.
Tu as raison.
Désolé, ceux qui ont pris ces décisions de favoriser plutôt l'inflation, la pénurie, de pas suffisamment investir dans l'électricité nucléaire, doivent assumer aussi à un moment donné.
Et là, j'appelle tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui ont des commerces en dur ou des bâtiments. Nous, on a par exemple nommé un référent énergétique dans chacun de nos établissements. C'est-à-dire que le matin, quand l'électricien n'est pas là, t'es pas obligé d'avoir tout allumé. Donc, parce que l'État, effectivement, cet après-midi, c'est tout l'enjeu de la discussion avec la ministre. C'est de dire, nous, on va faire des efforts, on va baisser notre impact carbone, parce qu'il s'agit pas que l'État soit un distributeur automatique de subventions. On est des chefs d'entreprise, on doit aussi se responsabiliser.
Voilà.
Donc, j'appelle tous mes confrères à nommer dès aujourd'hui un référent énergétique.
Moi, moins ça fera du boulot.
Mais oui, bah oui. Mais déjà, ça sensibilise.
Non, tu rajoutes ça dans sa fonction tout de suite.
Non, mais tu sensibilises un salarié. Nous, on l'a fait. C'est plutôt valorisant. Et quand je tourne, je leur dis, bah, attention, ça c'est allumé, ça n'a pas de raison d'être.
En fait, il y a un type qui fait la police de la lumière chez toi.
Mais c'est très bien. Mais non, mais attends, c'est vrai qu'on gaspille trop. Et cette période nous rend compte aussi.
Mais là, on parle. Oui, mais tu tombes dans le piège.
Je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. C'est un, comment on fait des économies. Oui, on est tous d'accord là-dessus.
Gueule,
mais il faut le faire. Là, c'est juste un renouvellement de contrat. C'est un renouvellement de contrat. Ce que dit le maire, c'est pas que, je vais faire des économies. On me présente des contrats, on me fait x32 et x16. Il dit, moi, voilà. Pourquoi ? Il demande simplement pourquoi on me dit x16, x32.
Là, on est dans le cas.
Il ne l'accepte pas.
Là, on est dans le cas.
Aujourd'hui, effectivement, il faut peut-être décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Puisque les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils l'achètent.
L'Espagne l'a fait.
Depuis 25 ans.
Les fournisseurs, ils l'achètent et ensuite, ils te le revendent. Donc, ils se disent, putain, ils disent, c'est indexé sur le prix du gaz qui s'envole. Moi, donc il faut que je m'y retrouve quelque part. Donc, c'est là-dessus qu'il faut intervenir.
Toi, tu soulignes un exemple où le maire est en fin de contrat et il a un nouveau contrat.
Pour beaucoup, c'est
ça. Mais malheureusement, moi je peux te sortir des kilomètres de chefs d'entreprise qui sont résiliés en plein contrat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un prix bloqué pendant 3 ans, ils sont au milieu de contrat, le fournisseur énergétique il dit ben moi je peux pas tenir ce prix-là, je vous résilie, vous allez qu'aller devant les tribunaux. C'est inacceptable dans les deux cas, celui que tu cites, mais ce qui est scandaleux, nous on a un hôtel à Kaisersberg. Il avait 40 000 euros de facture énergétique, il a été résilié, 40 000 euros de facture énergétique. On lui propose un nouveau contrat, on le résilie, 400 000 euros de facture énergétique.
Oh là là.
C'est-à-dire que pour compenser ta facture énergétique, c'est pas 400 000 euros de chiffre d'affaires que tu dois faire, c'est 400 000 euros de résultats que tu engloutis. C'est impossible.
Dans la facture énergétique.
Ça ne marche pas.
On va en parler. Tiens, regarde, avec Nicolas qui nous appelle de Paris. Il est chef d'entreprise dans le BTP. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous pensez du coup de gueule de ce maire quand il voit les renouvellements de contrats alors ?
On est tous malheureusement au même point. Moi j'ai un regard qui est un peu différent. C'est qu'en fait, j'ai une activité dans le BTP, dans le recyclage. Et aujourd'hui, on s'offusque tous en disant on manque d'énergie, on manque de ci, on manque de ça. Et moi, ce que je déplore depuis des années, c'est que bon nombre, beaucoup de maires de communes, lorsqu'on vient les solliciter pour implanter des installations de production d'énergie, issus des déchets de leur collectivité, de marché privé ou de marché public, bah c'est des refus, tout simplement. On sait produire de l'électricité, on sait produire du gaz, et on nous refuse des installations.
Mais combien il y a de... Non, mais c'est pas que le maire. Combien il y a de pétitions qui tournent contre des entreprises de méthanisation en France ? Et c'est incroyable.
Général, c'est associé
les gens,
sur écolo,
les gens sont d'accord, mais au moment où on veut leur installer une usine de méthanisation sur leur territoire, ils font tous une pétition pour que ça ne s'installe pas.
Surtout pour apporter quelques précisions par rapport à ce que Étienne dit sur la méthanisation. Le méthane est disponible dans l'air partout dans le monde gratuitement.
Mais
c'est l'énergie captable la plus forte.
Allez-y,
Nicolas. L'Allemagne, il y a des bâtiments qui fonctionnent entièrement grâce à la méthanisation.
Mais chez nous, ça, on construit une prison.
Allez-y, Nicolas.
Il n'y a pas que la méthanisation. La méthanisation, c'est un exemple. Il y a sur des matières sèches qui ne produisent aucune émission. Et lorsqu'on vient les voir en leur disant « Gélérons, on sait faire, réglementairement, c'est fixé », ce qu'on nous dit grosso modo, c'est « Aller chez le voisin, mais pas chez nous ». Et même quand on leur explique que c'est des déchets qui viennent de leur territoire, « Ah oui, mais il y a toujours quelque chose ». Moi, j'ai un exemple, ça fait 2 ans. On a répondu, alors je ne vais pas citer le nom, à une très grosse collectivité. On a répondu à un appel d'offres pour être attributaire d'un foncier. Ça fait 2 ans qu'on attend une réponse. Voilà. On sait produire, c'est financé sur des fonds privés. Il y a même pas un euro public dans l'histoire. On sait produire du courant, du gaz, de l'énergie, des réseaux de chaleur et tout ce qui peut aller avec. Et aujourd'hui, les collectivités.
Il y a des exemples de villages et de petites villes même qui sont autonomes. Il y a des exemples de villes qui ont installé à la fois des panneaux solaires, qui ont installé ce que vous dites de récupération, etc., et même des éoliennes, qui sont aujourd'hui en autonomie et qui ne dépensent pas d'énergie, d'argent
public. D'accord pour dire que c'est bien de pleurnicher, de demander toujours à l'État toujours plus, mais aussi il faut que chacun se prenne en main.
Voilà.
Il faut aussi que les villes,
les entreprises aussi d'ailleurs.
Intelligent.
Nicolas, merci d'avoir attiré notre attention sur les solutions alternatives aussi. On a un ancien agent EDF qui est avec nous, c'est Bernard, il est en Corrèze. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
À la retraite en Corrèze ?
Oui, je travaille dans les grands barrages. Oui, j'ai 62 ans. Je suis un cadre technique dans les barrages.
Oui.
Je suis à la retraite, donc dans les grands barrages sur la Dordogne.
Mm-hmm.
Et je voudrais quand même intervenir parce que nos hommes politiques, ils sont très gentils, mais ils ont tous la mémoire courte. Donc les hommes politiques français ont obligé toutes les entreprises de plus de 10 salariés, toutes les collectivités locales, les mairies, les préfectures, les collèges, tout ça, à sortir du tarif réglementé.
C'est vrai.
Donc les agents EDF, ils avaient dit, mais monsieur, ça va faire monter le prix de l'électricité. Personne n'a écouté. Donc on a gagné 10 centimes du kilowattheure et maintenant on multiplie par 32. Alors ces gens-là qui se plaignent, ils se sont tirés une balle dans le pied, et vous, messieurs les journalistes, vous ne le dites pas.
J'ai dit tout à l'heure que nous étions en train de payer des erreurs politiques, des erreurs économiques, et qu'on faisait maintenant culpabiliser les Français. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah non, alors là, écoutez, je suis suffisamment critique sur de mauvais choix qu'on a fait ces dernières années.
Les grandes gueules, ça a été dénoncé par bon nombre d'OGG, dont Thomas Porcher, notre professeur d'économie, qui a dit que c'était une erreur industrielle, Thomas Bernard. Mais allons-y, continuons la discussion, allez-y.
Le drame, c'est que ça coûte rien à ceux qui les ont fait.
Les hommes politiques, aujourd'hui, ils gèrent à court terme, ils n'ont pas à long terme, mais on ne construit pas des centrales comme ça. Donc, les centrales nucléaires, on n'a pas attendu pour faire les postes en 3-8 pour faire de la maintenance dessus. Qu'est-ce qu'il croit, le monsieur, là, derrière?
Ça a été arrêté 2 ans, la maintenance, à cause du Covid.
À cause du Covid, en plus de ça, EDF n'a pas embauché parce qu'on avait dit on va fermer le nucléaire, ce qui est une grosse bêtise.
C'est complètement débile.
Parce qu'aujourd'hui.
C'est dit l'ancien patron d'EDF, d'ailleurs.
Voilà, 70% de l'énergie vient du nucléaire. Aujourd'hui, vous n'avez même pas 30% sur les énergies renouvelables. Et à tous les hommes politiques qui nous mentent en disant qu'on mettra de l'énergie renouvelable à 100%, ils disent n'importe quoi, ils vous mentent. Donc ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces collectivités qui sont sorties du tarif réglementé, eh ben aujourd'hui elles payent le prix fort. Donc à un moment donné, il faut le dire.
Mais l'entreprise France, hein, c'est la seule entreprise où vous pouvez faire les pires boulettes qui coulent le pays. Il se passe rien.
Mais c'est d'ailleurs
ils sont toujours au pouvoir. Non, mais c'est hallucinant.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé dans les dernières heures le processus de renationalisation
C'est intéressant, justement.
Pour reprendre en main. Merci Bernard d'avoir poussé ce coup de gueule salutaire pour nous aider à mieux comprendre aujourd'hui.
On peut compléter justement le rachat d'EDF qui est quand même. Un sujet, c'est vrai que la nationalisation d'EDF, moi j'y suis favorable, mais c'est un coût pour les 16% du capital restant de 9,7 milliards.
Mais oui.
9,7 milliards pour une tôle qui perd 10 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise au monde ou un fonds d'investissement qui rachète 10 milliards une entreprise qui en perd 10.
Chose en
ça n'existe pas.
Alors on va regarder.
C'est hallucinant.
On va regarder le résultat.
L'Allemagne a fait la même chose la semaine dernière.
On va regarder le résultat de notre discussion. Les maires doivent-ils arrêter de payer? On est parti de l'exemple de Neuilly-sur-Marne. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, quel est votre sentiment?
Bah,
c'est un oui à 72% pour les 1000 personnes.
Et les gens ne se rendent pas compte qu'il ne vont plus avoir de jus.
L'école est fermée, le centre aéré. La crèche est fermée. Déjà pour les piscines, c'était un scandale. Alors imagine les crèches, les écoles, les centres aérés.
Mais j'ai pas payé.
Avec Zora, avec Étienne et avec Stéphane, on s'en fout pas. Ces artistes qui se coupent les cheveux en soutien aux Iraniennes, mais une petite mèche, hein, simplement. Crac à Paris, démantèlement du campement de Forceval. On s'en fout.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Les GG, s'il vous plaît, il y a de l'indiscipline, donc on me donne les portables. Voilà, on les met dans le petit panier. Stéphane Manigold, restaurateur, Zora Bitant, cadre de la fonction publique, monsieur Gagné Big. Merci bien, je garde ça à côté de moi. Vous les retrouverez à la pause publicitaire.
Il n'y a pas le temps de les vendre.
On y va. On s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
C'est avec notre camarade Louis Gerbier, mon cher Louis, bonjour.
Bonjour à tous.
Allez, vas-y, envoie.
On débute en parlant de cette vidéo où des actrices coupent leurs cheveux en soutien aux femmes iraniennes. Vous pouvez le voir sur RMC Story. Geste devenu symbolique, on peut y voir Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Pomme, Angèle, Juliette Binoche, encore Isabelle Carré. On s'en fout, on s'en fout pas, Étienne.
On s'en fout pas de la forme, mais on s'en fout pas du fond, mais on s'en fout de la forme. Ouais.
Zora, on s'en fout pas.
Je m'en fous ni de la forme, je m'en fous
de la forme et du fond.
Je m'en fous pas ni de la forme ni du fond.
Il faut rappeler le concept. Hein, c'est voilà, on s'en fout.
Je ne m'en fous pas.
Voilà.
Stéphane,
je ne m'en fous pas. Eh ben comment, c'était le plus clair.
Non, mais c'est bien qu'en fait, tu sais, quand les artistes ne se mobilisent pas pour une cause, on dit mais où sont tous ces artistes, et quand ils se mobilisent, on va leur taper dessus. Donc à un moment, faut savoir. Moi, je suis plutôt favorable que quand il y a une cause, eh bien c'est une maison commune que de la défendre, que tu sois connu ou pas connu. Quand tu incarnes une défense, bah très bien que ces actrices se mobilisent pour défendre cette noble cause. Moi, ça me va.
Étienne.
Moi, je suis évidemment pour la cause, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que
raser la tête.
Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on aide les gens qui sont actuellement en révolte dans ce pays, comme on aiderait des Ukrainiens, qu'on les aide vraiment par des moyens réels.
Peut-être aider déjà les femmes qui subissent.
Des moyens réels, des moyens militaires, des moyens qu'ils aient les moyens de se défendre. C'est le moment de faire tomber les mollahs. Il y a un vrai mouvement. Et pour la première fois, j'ai vu, parce que jusqu'à présent.
Il y a 20 ans de guerre maintenant.
Attends, jusqu'à présent, c'était beaucoup la capitale, etc. Parce que, évidemment, les gens ont été faire leurs études à l'étranger, ils sont extraordinairement éduqués, etc. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, c'est suivi aussi par des mouvements à la campagne, ce qui est quand même la première fois que ça arrive depuis la révolution. Donc, il y a quelque chose qui se joue, et je pense qu'il faut y aller à fond, là.
Il faut les aider. Je comprends pas.
Je sais pas. Il faut trouver les moyens de les aider, comme on peut peut-être trouver des moyens d'armer. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne
doit pas serrer la main du président iranien.
Et ça, même, c'est insuffisant.
Par exemple.
On s'en fout.
Zora, pour conclure.
Ah bah pour conclure, évidemment, c'est un geste fort. Hein. De toute façon, en France, on a intérêt à prendre position. Et de toute façon, là-bas, ils nous regardent. Et c'est un soutien fort. Donc moi, je dis un peu comme Stéphane. C'est-à-dire que quand les artistes ne sont pas mobilisés, on les cherche partout. Et quand ils le sont, on leur cherche des poux. Donc il faut
du
les
coup,
laisser.
Ils ont moins des poux là-bas.
Exactement. Mais ce qui est intéressant.
René, humoriste.
Elle est là.
Une mauvaise blague, elle est où?
Ah.
Elle est là. Vas-y.
Ce qui est intéressant, c'est ça a démarré avec les femmes et maintenant c'est presque une grande partie du pays qui est mobilisée et on doit être avec eux et partout et comme on peut, je veux dire,
on
voilà.
On peut taper le porte-monnaie sur le plan européen, prendre des sanctions sur les oligarques iraniens, tiens, par exemple, on pourrait les sanctionner.
On continue.
Allez, on enchaîne.
Les sanctions, ils en ont plus d'argent.
On continue. On y va.
Le crack à Paris, la police procède au démantèlement définitif du square Forceval. Après plus d'un an à la porte de la Villette, c'est fini pour ce camp de migrants, on s'en fout, de migrants de crackhead, pardon. On s'en fout, on s'en fout pas, Stéphane.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas.
Et Étienne. Zora.
Moi, j'attends de voir qu'est-ce que ça veut dire définitif. Qu'est-ce que ça veut dire définitif? C'est quoi? Quel est le mode d'emploi? Quel est le mode opératoire pour que justement cette colline du crack ne se reconstruise pas après? Donc c'est un vrai drame, hein, à la fois humain, à la fois social, à la fois pour la ville de Paris, mais pour tous les Parisiens qui vivent dans le coin. Donc je suis assez, j'allais dire, je m'interroge, ouais, oui, sur l'idée du définitif. Mais bon, j'attends de voir.
Simplement une précision. Ah. C'est quand les policiers sont arrivés, il y avait quasiment plus personne.
Bah non,
parce qu'en fait,
à chaque fois,
l'info avait fuité.
Mais oui,
et
mais
donc
oui,
la veille, ils savaient que les policiers seraient là ce matin. Donc il y a une opération de com. Mais est-ce que c'est vraiment efficace?
Puisque les gens sont déjà partis. Personne ne veut prendre des coups dans la gueule en plus.
Non, mais quand on voit les conditions pour être passé malheureusement plusieurs fois devant cet espace,
mais c'est une horreur.
C'est indécent. On est en 2022. On peut pas continuer à avoir cette misère, cette pauvreté laissée. Parce qu'il y a majoritairement des hommes, hein, dans ces camps, souffrir, mourir et avoir une déchéance à ce point. Je crois qu'il faut vraiment, fallait le faire. Maintenant, les sortir, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on en fait derrière?
Bah, je te fous mon billet que ça va revenir à quelques centaines de mètres plus loin ou pas.
Juste, simplement, je rappelle simplement qu'il y a eu des déclarations récemment du ministre sur le fait que les toxicomanes étaient des gens qui étaient en souffrance et donc qu'il fallait les soigner, mais ça concernait évidemment les gens qui prennent de la cocaïne et ceux-là on doit les soigner. Je rappelle que le crack c'est de la cocaïne et que donc ces gens sont effectivement dépendants, qu'ils auraient besoin d'abord de soins. Et je rappelle aussi une deuxième chose, c'est que si on se fait plaisir là en se disant allez c'est des gens, ils sont un peu exclus, etc., je rappelle quand même qu'il y a des tas de consommateurs de crack qui sont des gens qui viennent chercher leur consommation
de crack parce que c'est cher et parce qu'ils aiment le crack et
qui se 10 balles, 20 balles,
et qui se barrent avec et qui sont des gens qui ont une vie tout à fait normale par ailleurs et qu'il y a aujourd'hui ce qui s'est passé si parce que c'est très grave le fait qu'on puisse se procurer du crack. Le fait qu'on puisse se procurer du crack en permanence,
c'est quelque chose de grave. De tabou, il y a des gens qui aiment le crack, quoi.
Il y a pas que la question question de la délinquance.
Ça tue le crack, hein.
Il y a la question effectivement que le crack est une drogue très dangereuse et qu'aujourd'hui il y a des gens de plus en plus qui en prennent.
Il y a aussi une responsabilité des gens qui en prennent, moi, à un moment donné.
Bah, évidemment.
Ce sont des malades.
Bah, évidemment.
Mais il y a aussi une responsabilité.
Évidemment, comme des alcooliques.
On continue, on termine, Louis.
L'Arabie Saoudite organisera les Jeux Asiatiques d'hiver 2029.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sur les bords de la mer Rouge, le projet NEOM, d'un montant de plusieurs centaines de milliards de dollars pour accueillir les Jeux d'hiver en 2029. On s'en fout pas, Stéphane.
On s'en fout pas.
Zora.
On s'en fout pas, parce que ça va être encore écologiquement
Etienne,
une catastrophe.
On s'en fout pas.
Eh ben quoi,
mais non, mais moi je trouve ça génial.
C'est les signaux que l'Asie envoie en disant demain nous on n'a plus besoin du monde.
Faut pas me poser la question à moi si c'est Manigold qui répond.
Qu'est-ce qu'il a, Yébig, là,
non, mais il me pose la question, tu prends la parole, faut choisir.
Vas-y Étienne.
Vas-y si t'as un truc à dire.
Et puis ensuite.
Non, je dis juste que je trouve ça génial. Que ça paraît complètement absurde et c'est une espèce de remise en cause de l'ordre mondial normal, c'est-à-dire que voilà, d'un seul coup des nouveaux pays émergents, il y a eu la Chine, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ces pays qui réclament exactement ce qu'on a toujours réclamé, c'est-à-dire que ils deviennent des pays centrés, centraux.
Alors après, nous, dans les dans nos montagnes.
Et d'abord ils ont des montagnes.
C'est vrai, ils ont des montagnes.
Ils ont des montagnes, peut-être les mêmes que nous.
Ils vont équiper d'ailleurs.
Et qui vont équiper, donc c'est pas plus ridicule. Mais ce qui est amusant, c'est voir comment le vent tourne, quoi. C'est intéressant parce que c'est la réalité géopolitique.
Il est big, Stéphane.
Ce qui m'inquiète, c'est le repli, si tu veux, de cette espèce de mondialisation où au fond l'Asie a envahi tous les pays avec les produits, etc. Et aujourd'hui, c'est bon, on a les technologies, on a les usines, on a le savoir. Maintenant, on se replie sur nous-mêmes. Il y a un chiffre qui est assez frappant que j'avais entendu sur les Jeux Olympiques, par exemple. La Chine est en capacité de proposer 5000 athlètes par discipline. Tu dis, c'est inquiétant, quoi.
C'est pas un repli, c'est.
Ah si, pour moi,
mais
c'est
non,
un repli.
C'est que le centre du monde.
A bougé.
C'est tout.
Mais c'est pas le centre du monde.
On peut regretter que ce soit
polarisé.
Mais non, au contraire.
C'est que les Chinois sont ceux qui ont le plus envahi le monde. Moi, j'étais en Italie la semaine dernière. Les Chinois achètent.
Toi, tu vas nous faire acheter
l'Italie.
Inconnus,
non, mais attends. Ils achètent l'Italie, tout simplement. Ils ne louent pas l'Italie. C'est-à-dire, ils sont pas locataires des boutiques. Ils achètent l'Italie. Parce que ça a commencé avec Salvini qui leur a vendu pour la route de la soie. Et aujourd'hui, ils achètent l'Italie.
C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'endetter.
Et les boutiques sont chinoises. Et voilà, et je veux dire, le vent a tourné, ils ont pris l'opportunité.
Merci Louis, on te retrouve tout à l'heure à 10h40 pour le quiz des GG. Dans un instant, est-ce que nous sommes devenus une société de pantouflards? C'est le coup de gueule du philosophe Pascal Bruckner qui sera avec nous, le sacre des pantouflards. On ne veut plus rien faire, on est dans notre confort et conformisme, plus d'audace. Allez, à tout de suite avec Bruckner, avec les GG.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.